Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour.
Claude Lévi-Strauss.
S'il y a quelque chose de tragique dans la condition humaine, c'est bien cette coexistence que nous menons à côté d'autres êtres qui sont vivants comme nous et avec lesquels nous ne pouvons pas communiquer.
Ah, comment retrouver dans notre complexité d'aujourd'hui la grandeur indépassable des commencements et dans la configuration indémêlable des systèmes de parenté dans la forêt des mythes, comment trouver des principes d'explication ? Lévi-Strauss, c'était cela, une extraordinaire machine à explication. Au Collège de France, où il fut élu en 1959, il embarquait ses auditeurs dans des périples en diagonale à travers le monde. Il montait en généralité, puis retombait sur ses pieds. Le moteur fonctionnait sans un accroc dans la langue, avec de fulgurantes accélérations théoriques. Mais son discours intégrait aussi des notations ironiques de longues plages mélancoliques qu'on comprend que le savant était devenu des tristes tropiques qui le révéla en 1955 à un vaste public, un écrivain. Dans les années 1960, on n'en avait que pour le structuralisme, dont on disait qu'il était le père. L'entraîneur de l'équipe nationale de foot française, lui-même travaillait avec ses joueurs selon des principes structuralistes. Puis, on en revint. Lévi-Strauss affectait de regarder tout cela avec distance, ne me posait plus de questions sur le monde tel qu'il va, mon œuvre est finie. Il est mort à 100 ans passés, en 2009, et voilà qu'on s'aperçoit que ses livres sont disponibles pour les questions les plus contemporaines, du genre « Comment vivre avec les animaux ?»« Que faire des bébés par procréation artificielle ?» Et un bébé chinois élevé en France, est-ce que c'est un Français ? Plus Lévi-Strauss vieillit, plus il devient actuel.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Emmanuel Loyer, bonjour.
Bonjour.
Je parlais d'un très grand livre, c'est celui que vous publiez chez Flammarion. Quelle joie de lire un ouvrage d'une pareille densité. Mais quelle joie pour vous, ça a été de travailler pendant des années au milieu des 261 boîtes d'archives laissées par Lévi-Strauss.
Oui, c'est vrai, c'était une joie, et surtout dans un lieu qui est un lieu magnifique, le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui est une sorte d'antre sacré de la littérature française, mais aussi, depuis quelque temps, des sciences humaines, avec les fonds qu'ont déposés donc Claude Lévi-Strauss ou d'autres, Michel Foucault par exemple maintenant. Alors ça c'est un lieu évidemment qui m'a accueilli pendant des années, et puis également le bureau de Claude Lévi-Strauss.
Ah, vous le décrivez longuement. C'est tout près d'ici, dans un quartier qu'il jugeait un peu ennuyeux, mais c'était l'appartement de sa dernière et définitive épouse. Les structures matrilinéaires, ça a des avantages. Et alors là, c'est un cabinet qui reproduit, transpose le monde.
Oui, c'est son bureau, donc rue des Marronniers. C'est un bureau qui est surtout formé d'une immense bibliothèque qui représente aussi l'idée que, à l'époque, parce qu'il y est à partir du milieu des années 50, on pouvait avoir une vision un peu exhaustive de ce qui était écrit en anthropologie et qui a cette chose très particulière d'être une sorte de bibliothèque qui fait le tour du monde avec différents panneaux où, disons, tous les livres qui étaient liés à l'Océanie étaient sur un panneau, à l'Amérique du Sud, à l'Amérique du Nord, à l'Afrique, et surtout ce qui en constitue la spécificité qui laisse rêveur et qui est une chose très belle, c'est que le classement n'était ni alphabétique ni thématique, mais disons, j'aurais envie de dire anamorphique presque, c'est-à-dire que les livres traitant de telle ou telle tribu étaient classés selon la géographie des peuples sur le continent africain, américain, etc. Donc c'est vraiment l'idée d'une bibliothèque qui est l'image du monde. C'est un imago mundi d'un savant de la Renaissance.
Alors, les tribus amérindiennes du Brésil qui ont été son terrain de choix. Il est nommé en 1934 à l'université de São Paulo, en même temps que de jeunes agrégés de l'enseignement secondaire qui cherchent à briser la routine et à se constituer un tremplin. Il y avait par exemple Fernand Braudel qui lui se déplaçait toujours avec ses fichiers.
Oui, C'était déjà l'historien des annales. Il avait un fichier absolument impressionnant, qui impressionnait d'ailleurs Lévi-Strauss.
Qui lui-même s'est mis à faire des fichiers.
En effet. Toute cette histoire des sciences sociales du XXe siècle est liée au meuble, à la fiche et au fichier. C'est aussi la possibilité, disons, d'une documentation énorme et comparative. Donc Braudel avait un énorme fichier. Il louait une chambre d'hôtel exprès pour ses fiches.
Mais avant les fiches et les fichiers, la pirogue. Alors, il a fait 3 expéditions en Amazonie chez les Caduveo, la dernière plus longue chez les Nambiquara, fort connue grâce à lui. Et le voici avec sa première épouse, Dina, chez les Bororo.
Nous étions arrivés en camion par une très mauvaise piste jusqu'à un endroit où on nous avait dit qu'on trouverait un piroguier qui pourrait nous conduire plus loin sur le fleuve, là où il y a que les Bororo. Bon, nous sommes partis dans sa pirogue, très beau fleuve, des animaux, des oiseaux, d'énormes boîtes, plusieurs mètres que nous avons rencontrées. Enfin, tout ça a été très excitant. Et puis, un beau matin, après avoir campé sur les berges comme nous faisions, nous avons aperçu deux formes, trois assez rouges, sur les bords de l'eau. C'était les premiers bororo que nous voyons. On s'est fait comprendre comme on a pu, par geste, on est arrivé à expliquer qu'on allait chez eux. Ils sont partis en éclaireur nous annoncer, et puis nous avons débarqué à un endroit sur la berge où il y avait une quantité, alors d'indiens, une quantité, j'exagère, parce qu'il y avait peut-être au total 140 personnes dans ce village. Mais enfin, tout un groupe d'indiens qui s'agitaient, et c'était eux qui nous attendaient. Parés de colliers, de dents d'animaux sauvages, enfin les crocs de jaguars d'une blancheur éclatante, qui chantent, danse pendant les heures.
Au micro de Jean-Claude Bringuier en 1977, il essaye de regarder, dit-il, d'un œil neuf, ce qui est peut-être les commencements insaisissables du monde.
Oui, alors c'est vrai que ces bororo, ils parlent de corps rouges, sont une sorte de rêve d'ethnologue en même temps, parce que ce sont des Indiens qui ont des chants funéraires, qui sont parés, qui ont ces coiffures de plumes extraordinaires. Et il essaie de les saisir d'un œil neuf, dit-il. En même temps, ces Indiens n'étaient pas absolument, isolés. Il y avait déjà eu un certain nombre d'ethnologues, les Persalésiens, etc. Mais Lévi-Strauss nourrit ce fantasme, ce rêve qui est un rêve savant, de finalement revivre les débuts, la scène inaugurale de notre modernité, c'est-à-dire se retrouver nez à nez pour la première fois avec un Indien, c'est-à-dire quelqu'un de totalement différent.
Essayez de les comprendre, de les entendre, de les observer avec les 5 sens. Vous insistez beaucoup d'ailleurs sur côté gourmand de Lévi-Strauss toute sa vie.
Oui, bah, il dit que le goût, c'est un des sens archaïques et c'est un des sens qui lui est le plus nécessaire chez les Indiens, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de démocratie des sens chez Lévi-Strauss. Il regarde, la vue est très importante, il écoute, mais aussi il goûte, il touche. C'est quelqu'un qui, je dirais, véritablement un rapport très sensible au monde et pas seulement théorique.
Il n'a pas encore, on est en 35, 36, 37, 38, il n'a pas encore une interprétation propre. Il est encore le disciple des ethnologues de Paris.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est en gros le disciple de Mauss, même s'il n'a pas suivi les cours de Mauss, et il y va avec un programme, de vérification d'un certain nombre de choses d'ethnologie comparée, mais il ne prononce pas du tout le terme de structure ni de structuralisme.
Il
y va pour être une sorte de spécialiste des Indiens d'Amérique du Sud.
Ça viendra à New York. Alors le retour en 1939, vous le décrivez en détail. On publie d'ailleurs la correspondance aux éditions du Seuil qu'il a entretenue pendant cette période avec ses parents. Le retour est très difficile. À Vichy, on lui dit « Mais Lévi-Strauss, comptez pas aller à Paris ». Les parents sont obligés de se cacher sous le nom de
Luce Saunier.
L.S. Et lui, il va trouver un guichet qui s'ouvre un peu miraculeusement début 1941 et il rejoint par les Antilles pétinistes New York. Il est d'ailleurs en compagnie d'André Breton. Et aux États-Unis, on va pas l'appeler Lévi-Strauss.
Non, ça c'est une histoire assez amusante. On lui recommande de l'appeler Claude L. Strauss pour ne pas qu'on le confonde avec les Blue Jeans.
Ah ben ça l'intéresse. Et puis la cuisine américaine, ou plutôt les cuisines de tous les pays qu'on rencontre aux États-Unis. Et puis la ville qui naît, ça le fascine.
Ah, il est passionné. Et ça, la correspondance en rend tout à fait compte. Il arrive à New York et il découvre cette ville extraordinaire qui lui fait penser au Paris de Balzac, en fait. C'est amusant, il le dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire que c'est une ville qui est faite de strates différentes, qui est aussi paradoxalement une ville du Nouveau Monde qu'il adore avec sa sauvagerie, mais aussi une sorte de conservatoire des vieilles cultures européennes ou asiatiques aussi, puisqu'il va voir l'opéra chinois, il va dans tous les restaurants exotiques avec Breton et les surréalistes, et il va aussi au théâtre yiddish par exemple.
Et c'est tous les éléments qui forment la musique qui le passionne. C'est peut-être déjà une ville structuralisme. Vous avez prononcé le mot structure, je prononce le mot structuraliste. On y viendra tout à l'heure. Il n'est pas dans l'entre-soi aux États-Unis, dans l'entre-soi français.
Ah non, c'est quelqu'un qui va jouer complètement le jeu, je dirais, de l'hybridité, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans l'entre-soi français. Il va rencontrer beaucoup de collègues anthropologues américains. Et il publie en anglais, il lit en anglais. Il va vraiment devenir s'imbiber, justement, de cette grande tradition anthropologique américaine qu'il rapporte avec lui ensuite en France.
Et dans son appartement de New York, eh bien, il y a des cartes du monde qui tapissent les murs. Cependant, il lui arrive de travailler pour le secteur français de Voice of America. Alors ça, c'est un document que vous avez déjà produit dans un documentaire de France Culture. Il s'avère que Lévi-Strauss s'était un peu spécialisé dans le doublage de la voix du président Roosevelt.
This is New York, the United States of America, calling the people of Europe.
L'Amérique en guerre vous parle.
Chaque jour, à la même heure, nous vous apportons les informations que votre censure vous cache et dont l'Allemagne cherche à tout prix à vous priver. En ce moment même, vous nous entendez peut-être mal. L'ennemi, une fois de plus, est peut-être en train de brouiller les ondes, de faire tout son possible pour cacher la vérité. Mais nous ne craignons pas d'être brouillés, que Berlin et ses auxiliaires s'acharnent ou non à essayer de couvrir la voix de l'Amérique, les Français l'entendront quand même. Car chaque fois que nos amis français voient passer des avions britanniques et américains, ils savent que l'offensive aérienne alliée continue.
Car chaque fois que Laval lance un appel inutile en faveur de l'Allemagne, nos amis de France savent qu'ils ont enregistré une nouvelle victoire sur Vichy et sur Berlin.
Ces émissions étaient en dialogué, en somme. Probablement pour donner la possibilité, une plus grande possibilité de passer à travers le brouillage. Il paraît que ma voix perçait mieux le brouillage que d'autres. Et donc, quand on tenait beaucoup à ce que quelque chose soit entendu, et bien entendu les discours du président des États-Unis s'amenait au premier rang, on me les confiait pour les interpréter.
C'était la diction aussi qu'il caractérisait. Il avait été speaker à Tour Eiffel pour gagner de l'argent dans les années 1930. Une diction qui tenait peut-être un peu à distance, tellement elle était parfaite.
Oui, c'est vrai qu'il a ce langage qui nous frappe aujourd'hui, où on est un peu bredouillant, qui reflète à la fois, je crois, un état de la langue, mais aussi quand même une sorte de virtuosité qui lui est propre. Tout le monde m'a dit, il se lançait toujours dans des phrases extraordinaires, on savait pas s'il allait retomber sur ses pieds, puis finalement, miraculeusement, il est retombé sur ses pieds. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve ça très impressionnant. En fait, il parlait comme il écrivait.
Et comme il se tenait. Alors, vous le décrivez, ne se penchant jamais en avant vers l'interlocuteur, ne le touchant certes pas, d'ailleurs plutôt tendance à aller en arrière, la distance toujours.
Oui, C'est vrai que, alors là, je le décris tel que on me l'a décrit, parce que moi, je l'ai juste rencontré une seule fois, enfin quelques fois, mais très âgé. Il avait cette espèce de, oui, de distance immédiate, qui s'alliait à une grande courtoisie, mais qui évidemment n'autorisait aucune familiarité et qui avait même tendance à terroriser un peu ses interlocuteurs. Mais c'était quelqu'un manifestement qui avait une sorte de, oui, qui était un peu timide aussi et qui imposait ce type de relation.
C'est la bonne attitude pour le métier qu'il va exercer pendant 2 ans, parce qu'il reste à New York et à Washington après la fin de la libération de la France, et il va être conseiller culturel. Alors là, des gens lui disent mais revenez en France, vous n'allez rien comprendre à ce qui se passe dans la mentalité européenne ou dans la mentalité française. Il avait une réponse toute prête.
Oui, il disait que c'était eux qui n'allaient rien comprendre au monde de l'après-guerre. Et c'est vrai que le fait d'avoir été exilé aux États-Unis pendant la guerre, il n'est pas d'ailleurs tout à fait le seul à prendre conscience de ça, fait que il voit à quel point, son horizon évidemment s'élargit. Il voit que la France n'est plus tout à fait la puissance qu'elle rêve encore d'être, malgré De Gaulle et malgré ce rétablissement spectaculaire d'une certaine façon, mais un peu fin, ou en tout cas un peu fallacieux. Et donc c'est quelqu'un qui, au contraire, et je pense que c'est en effet très important, pense au niveau du monde, en fait.
Le monde est rond. On a cessé la description du cabinet de la rue des Marronniers, qui est plein d'objets qu'il chine. Ah oui, il est très marché aux puces. Hein, très
ah oui, drôle, il adore, avec Breton. Ça, c'est un peu un rite surréaliste qui l'accompagnait tous les samedis aux puces.
Et puis, on n'a pas parlé du poste de radio qui était derrière. On ne comprend pas toutes les langues du monde, dit-il, mais tout le monde peut être sensible à n'importe quelle musique. Un Européen à celle d'Asie, un Asiatique à celle de Donizetti. Il cite dans « Regarder, écouter, voir » assez longuement Lucia de Lammermoor. Ici, c'est Nathalie Dessay.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Emmanuel Loyer qui publie Lévi-Strauss, une biographie chez Flammarion. Ah, mais les commencements sont loin, tout est devenu très complexe, la musique est devenue si savante que l'auditeur d'aujourd'hui ne peut pas la saisir, comme un auditeur de Rameau au XVIIIe siècle qui pratiquait un instrument, composait lui-même, était capable de tout lire dans le détail. Vous-même, Emmanuel Loyer, enfin c'est votre fille qui vous forme à la musique.
Oui, c'est vrai que je ne suis pas une mélomane et que le langage musical, c'est un langage comme tous les langages qui demande à être, qui demande un apprentissage. Mais Lévi-Strauss, lui, était un mélomane. Il avait, comme pas mal d'enfants de sa génération, biberonné du Wagner. Et donc l'opéra, c'est, il écoutait beaucoup de musique. La musique est très importante dans son existence, y compris quand il travaille. Il a besoin, dit-il, d'avoir de la musique parce que ça le met dans une sorte de climat sensoriel qui excite son intelligence ou son intellection. Et donc, la musique est très importante, mais au sein de la musique, l'opéra. Et l'opéra d'une façon très particulière parce que, comme les mythes, l'opéra est un langage de la totalité. Et il va, lorsqu'il écrit les 4 tomes des mythologiques, il dit qu'il a produit sa tétralogie. Donc c'est vrai qu'il y a cette comparaison, disons, du langage des mythes et du langage de l'opéra qu'il explicite.
Alors les mythologiques sont organisés à partir de 813 mythes plus un millier de variantes. Sa thèse qui a précédé de loin les structures élémentaires de la
parenté
essaye de trouver des principes d'explication. Vous dites qu'il cherche toujours à monter en généralité dans la configuration effroyablement complexe des systèmes de parenté. Le principe d'explication, c'est ça son moteur.
Oui, disons que bon, comme toutes les sciences sociales, comme la sociologie, l'anthropologie d'une façon générale, il essaie de faire advenir des règles, des lois peut-être invisibles, des lois de la société invisibles à l'œil nu, à l'individu, et de montrer que chaque société, y compris dans son cœur intime de la vie sociale, par exemple le mariage, et gouverné non pas par l'individu et ses désirs, mais par des règles, des lois dont lui-même n'a pas conscience. Bon, donc il y a cette idée de règles inconscientes et qu'il faut, tenter de faire advenir. Alors dans les mythologiques, il y a le même, je dirais, mouvement, mais avec cette idée de variété immense des mythes. Et de, s'intéresser à des histoires complètement aberrantes, comme Freud s'intéressait aux rêves, et que là, il y a quelque chose à comprendre du fonctionnement de l'esprit humain, d'une façon à la fois universaliste et dans sa diversité.
Alors vous expliquez dans le détail, jusque par l'examen des papiers de Lévi-Strauss, comment le mot « structure » a été peu à peu mis en avant et comment il a expliqué comment linguistique des phonèmes, des éléments insignifiants en eux-mêmes prenaient un sens à cause de leur articulation les uns avec les autres. Le structuralisme, bon, il y aurait 10 émissions à faire. Le structuralisme a recouvert l'existentialisme, a été à son tour recouvert par le retour à des philosophies, disons, plus classiques. Il s'en souciait assez peu parce que il se sentait pas de son temps, il se sentait inactuel.
Oui, enfin, c'est parfois...
Au bout d'un moment.
Oui, voilà, c'est
il
ça.
Il affectait beaucoup de coquetterie.
Il y a un peu de coquetterie. C'est aussi, je dirais, un ethos professionnel. L'anthropologue s'intéresse à des sociétés à la fois éloignées. Donc, il y a ce côté regard éloigné qu'il a toujours préconisé et qui lui semble être une bonne façon de regarder aussi les choses d'aujourd'hui. Non, mais il s'intéressait beaucoup, en fait, à son présent. Mais simplement, il pensait que la distance était une chose importante pour pouvoir dire des choses un peu intéressantes aussi. Et un peu nouvelle.
C'était un désengagé, expliquez-vous longuement, mais s'il n'était plus de son temps, quand il était couvert d'honneur, académicien, révéré, trésor national, il était parfaitement inactuel d'une façon si originale que son œuvre était disponible à toutes les questions d'aujourd'hui. Ici, il est chez Bernard Pivot.
Est-ce que les ethnologues n'ont pas été, avant tout le monde, les premiers écologistes ?
Je pense que c'est vrai. Et c'est vrai parce qu'ils sont à l'école de peuples qui, eux-mêmes, sont des écologistes, qui ont réussi, au prix de toutes sortes de pratiques que nous jugeons superstitieuses et avec un peu de dédain, à se maintenir en équilibre avec le milieu naturel. Vous savez, quand, parmi ces peuples que nous étudions, comme ceux d'Amérique du Sud et également du Nord, il existe des croyances en un maître des animaux
qui veille jalousement sur les procédés de chasse et dont on sait qu'il enverra des châtiments surnaturels à celui ou à ceux qui tueraient plus qu'il n'est strictement nécessaire. Quand, pour cueillir la moindre plante médicinale, il est nécessaire de faire d'abord des offrandes à l'esprit de cette plante. Eh bien, tout cela oblige à entretenir avec la nature des rapports mesurés. Et certains peuples ont même cette croyance que le capital de vie qui est à la disposition des êtres fait une masse. Et par conséquent, chaque fois qu'on en prend trop dans une espèce, on doit le payer aux dépens de la sienne propre.
Alors, une ou deux questions, Emmanuel Loyer, une ou deux questions d'aujourd'hui, auxquelles les livres de Lévi-Strauss ne fournissent pas des réponses, mais des références.
Oui, c'est pas des réponses au sens où ce qu'il dit simplement, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui à notre modernité un peu en berne. Finalement, des sociétés anciennes sont déjà posées et ont donné des réponses dont on peut, non pas forcément s'inspirer, mais qu'on peut simplement éditer. J'observe que, par exemple, là, il parle du rapport du rapport avec les animaux. Ça, c'est une des choses, en effet, importantes aujourd'hui, où on sait comment la nourriture, etc. Bon, il n'était pas du tout végétarien, mais il pense que, comme les cannibales, et j'aime cette... il faudrait manger de la viande de façon rare et avec un peu de frayeur. Bon. Deuxième exemple, sur tout ce qui est les nouvelles parentalités, les nouvelles filiations, il dit qu'un anthropologue est plutôt bien équipé pour réfléchir à ça et surtout pour ne pas trop se préoccuper de ce qui se passe actuellement, puisque beaucoup de sociétés exotiques, pour beaucoup de sociétés exotiques, avoir deux pères, trois mères, tout ça, ça n'est que c'est tout à fait ordinaire et donc il faut faire confiance aussi aux sociétés pour finalement s'autogérer un peu et ne pas trop forcément tout de suite manier, disons, l'outil législatif.
Donc voilà, donc les c'est usages une... plutôt que les dogmes sanctionnent.
Tout à fait, tout à fait.
Ben on s'est pas ennuyé hein, en vous écoutant. Les journalistes étaient toujours étonnés que Lévi-Strauss soit
simple
et compréhensible. Et quand lui s'ennuyait, alors ça se manifestait comment ?
Il commençait à souffler sur ses lunettes, à se gratter le nez, à bouger, etc. Et ça, c'était très mauvais signe en général.
Et puis on soulignera qu'il savait tenir à distance les journalistes quand Jacques Chancel arrivait avec 10 minutes de retard.
Il était conduit et puis il lui dit on fera l'émission la prochaine fois.
Et là, vous parlez du fait que la médiocratie, c'est le terme que vous employez, ne détenait pas encore tous les pouvoirs. Votre Lévi-Strauss chez Flammarion, Emmanuel Loyer, au seuil, l'édition patronnée par Monique Lévi-Strauss de la correspondance de Claude avec ses parents. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco avec à la réalisation Jacques Sigal et à la technique Juliette Del Pérou. Mathieu Vidard.
Oui, Jean, dans la tête au carré, l'homme, les modifications de l'environnement et leurs conséquences sur le monde vivant.
Eh bien, on n'est pas très loin des thématiques que nous avons abordées, puis vous reviendrez, vous, beaucoup plus longuement, un peu plus tard, sur Lévi-Strauss, un peu plus tard dans la saison.